Les différentes situations de catastrophe ou de grande vulnérabilité apparues ces dernières années, et d'autres à prévoir, sont des ruptures profondes du cours ordinaire, faisant apparaître crûment la vulnérabilité de la réalité. Fragilité radicale qui émerge d'autant plus quand c'est le monde ordinaire et l'ensemble du monde social et naturel qui est sous la menace. Il s'agit d'une insécurité ontologique qui peut conduire à de profondes transformations. Sandra Laugier est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son livre d'entretien avec Philippe Petit intitulé « Éloge de l'ordinaire ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Nina Simone. Commencer cette semaine avec Nina Simone, ça nous fait du bonheur, Sandra Laugier. Je vois que vous souriez en écoutant la voix de Nina Simone et la musique à l'intérieur de votre pratique philosophique, mais aussi à l'intérieur de votre histoire familiale, tient une place prépondérante.
Oui, c'est un bonheur d'entendre Nina Simone parce que c'est vrai que c'était cette voix extraordinaire et je m'intéresse toujours à la façon dont la voix, VOX, une personne exprime ce qu'elle est moralement, politiquement aussi.
Mais vous avez une voix assez incroyable aussi, vous.
Je ne sais pas, c'est vrai qu'elle est assez reconnaissable et je crois qu'elle...
Elle vient d'où, votre voix ?
Je crois qu'elle vient de cette histoire familiale aussi que je raconte, hein, pour une fois un peu personnelle dans le livre, puisque je pense que j'ai d'abord été élevée par une mère qui n'était pas française d'origine et donc qui a toujours eu un accent, une prononciation assez particulière. Et je pense que quand on parle de langue maternelle, il y a aussi une langue paternelle, comme dit Thoreau, mais la langue maternelle, c'est quelque chose... On transmet aussi des intonations, donc c'est peut-être ça qu'il y a dans cette voix. Et puis, j'ai été en effet élevée dans un univers de musique, puisque mes deux parents sont musiciens et ont consacré vraiment leur vie à la musique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a tenu une très grande place dans ma vie. Vraiment, la musique très contemporaine et la culture populaire aussi, que représente admirablement Nina Simone, c'est devenu aussi un objet vraiment d'étude pour moi.
Vous auriez pu devenir vous-même musicienne, or vous avez choisi la philosophie. Pourquoi ?
Oui, c'est vrai, c'est toujours un regret, hein, parce que j'avais commencé à faire de la musique, je jouais du piano, et je sais que ça a toujours été un peu une déception pour mes parents que je ne continue pas, parce que j'aurais pu aussi, mais c'est vrai que très vite, la philosophie, les études que je faisais ont été extrêmement prenantes, et je sais que beaucoup arrivent parfois à faire les deux, mais c'est vrai que je n'y suis pas parvenue, donc j'ai simplement continué, bien sûr, à écouter et à m'intéresser à la musique et à m'y intéresser par un biais particulier qui est l'intérêt pour l'expression, la voix, la façon aussi dont le langage ordinaire reprend des caractéristiques de la musique. C'est-à-dire que il y a toujours cette recherche de trouver la bonne tonalité, de trouver l'accord avec les personnes avec qui on discute, parfois de trouver des dissonances aussi qui sont fécondes. Donc de toute façon, ce modèle musical appliqué au langage, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours énormément porté.
Quand vous parlez de la philosophie, Sandra Laugier, on sent bien que c'est un amour véritable, sincère, qui permet de vous orienter dans votre vie et qui permet aussi peut-être de mieux comprendre nos existences. Et on a l'impression que vous déchiffrez certains philosophes, et là je veux parler de certains philosophes plutôt américains comme Cowell et plus avant Thoreau, comme des partitions musicales, comme si la philosophie c'était une affaire de déchiffrement, mais au plus profond de nous-mêmes.
Je crois que pour la plupart des philosophes hein, que vous rencontrez, la philosophie tient une place très très grande hein, dans pas seulement dans leur vie, ça c'est évident, mais même dans la façon dont on conduit sa vie. Il y a un livre d'Emerson, de Ralph Waldo Emerson, qui est un autre penseur qui m'intéresse beaucoup, le Maître de Thoreau, qui a écrit un livre qui s'appelle La conduite de la vie. Et comment on conduit sa vie. Et je crois que c'est vraiment la philosophie qui détermine donc beaucoup des étapes, des choix de nos existences. Et en effet, c'est un rapport à la philosophie qui est peut-être particulier, qui a été défini aussi très bien par Pierre Hadot quand il parle de la philosophie comme manière de vivre. Et c'est quelqu'un que j'ai bien connu, qui a beaucoup compté pour moi, et notamment sur ce plan-là, le fait d'accepter que ce soit cela aussi qui nous porte, autant que d'autres éléments de la vie qui sont peut-être, plus personnels. Et je crois que cette façon de considérer que la philosophie est elle-même une forme de vie, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par tous les philosophes qui m'intéressent et qui sont aussi dans cette pensée de la vie ordinaire. Donc dès lors que la vie ordinaire est un élément central de la réflexion, il est clair qu'il y a vraiment cette interférence constante hein, entre la vie, la philosophie, et je crois que ça devient vraiment une évidence, surtout quand la philosophie est une profession qui est extrêmement, extrêmement prenante, où on a en effet, aussi des élèves, où on crée des mouvements, et donc je crois que c'est quelque chose qui devient complètement intriqué donc avec la vie.
Au fil des années, Sandra Laugier, vous avez élaboré votre propre philosophie. En plus, vous avez la particularité d'avoir été une sorte de pont permanent entre la philosophie américaine et la philosophie européenne. Et cette philosophie, comme le nom l'indique de ce nouveau titre de votre nouvel ouvrage, la philosophie, ça se comprend aussi à partir de l'éloge de l'ordinaire. Mais vous avez eu aussi la chance d'avoir de grands professeurs de philosophie, et parmi eux, Jacques Bouvresse. Je vous propose de l'écouter. Il va nous parler de ce qui est nécessaire d'avoir dans ses bagages pour être un bon philosophe. C'est une archive INA du 3 janvier 2011, la voix de Jacques Bouvresse.
La grosse question, évidemment, c'est de quoi, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en dehors de la philosophie pour être un philosophe, un bon philosophe? Et ça, c'est une question à laquelle il est à peu près impossible de répondre, parce que il semble raisonnable de supposer qu'il faut que la philosophie doit être une discipline qui conserve une certaine universalité. Un philosophe, ça ne peut pas être un pur technicien. Donc, on n'imagine pas qu'on puisse être, je ne sais pas, purement et simplement philosophe de la logique, ou philosophe de la physique, philosophe de la biologie, etc. Mais en même temps, c'est de plus en plus difficile, parce que pour explorer, je ne sais plus à quel endroit, Mouzy, il parle de, des gens qui couvrent un territoire qui est grand, quoi, à peu près comme un timbre-poste, hein, mais ils savent que s'ils sortent un tout petit peu de ce périmètre-là, ils vont dire des sottises. Et c'est un problème auquel on est confronté constamment, surtout en philosophie, parce que la philosophie n'étant pas à proprement parler une spécialité, on est constamment tenté, mais on n'est pas seulement tenté, on finit toujours par le faire. Hein. On sort toujours, on franchit toujours la limite d'un côté ou de l'autre, avec le sentiment que là, on n'est plus tout à fait sûr de ce qu'on dit, on risque de dire des sottises. Et donc, c'est une position extraordinairement inconfortable. J'ai été confronté à ça régulièrement, parce que comme vous le remarquez, j'ai écrit des choses assez différentes, hein, puisque je me suis occupé, disons, de choses qui vont de la philosophie de la logique et des mathématiques à la littérature, en passant par un bon nombre de choses intermédiaires. Et à chaque fois, j'étais confronté à ce problème. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait apprendre pour pouvoir parler décemment de ça?
Alors, Jacques Bouvresse était un philosophe merveilleux. Ses livres n'étaient pas faciles à lire, mais sa pensée a été plus que tonique. Hélas, aujourd'hui, il a disparu, mais Sandra Laugier, j'ai l'impression que, au cours des années, finalement, non seulement vous avez été son élève, mais oui, vous êtes peut-être l'élève qui dépassait le professeur en ce moment, parce que vous élargissez le champ de la philosophie pour mieux comprendre notre monde contemporain.
Alors oui, j'étais son élève, je pense pas du tout le dépasser en quoi que ce soit, je dois dire, parce que c'était vraiment un professeur extraordinaire et qui avait en fait un champ extrêmement large, une compétence très très vraiment très très étendue sur toutes sortes de domaines. Là, il parle de Musil, il connaissait Wittgenstein, il connaissait tout le domaine de la logique, il connaissait la pensée autrichienne. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait ce champ très large et qui de surcroît avait cette capacité pédagogique incroyable, et qui était aussi, vous parliez du lien entre la vie et la philosophie, c'est aussi quelqu'un qui était vraiment toujours en conformité avec ce qu'il professait philosophiquement, avec cette rigueur, et aussi une forme de générosité, d'attention à autrui qu'on ne lui connaît pas beaucoup, et finalement, Non, dire que ses livres n'étaient pas faciles, je crois que c'est pas évident. C'est quelqu'un qui écrit...
Pour vous, parce que vous êtes une spécialiste de Wittgenstein, mais...
Non, par exemple, Le philosophe et le réel, son livre d'entretien, ou d'autres, beaucoup de ses textes sont toujours quand même extrêmement accessibles, et c'est ce qu'il voulait. Il pense que la philosophie, elle est tout à fait accessible pour qui veut se donner la peine de lire. Hein. Je crois qu'il avait raison. Après, un certain nombre de domaines auxquels il s'intéressait beaucoup, comme la politique. Hein. Alors, on discutait beaucoup de ça. Hein. Il avait des positions extrêmement, extrêmement arrêtées, assez radicales souvent. Mais il n'a jamais vraiment voulu développer beaucoup cet aspect-là ou d'autres. C'est vrai qu'il y avait aussi une vision de ce que peut faire la philosophie qui était assez assez déterminée. Par contre, c'est vrai que j'ai voulu aller sur plus de terrains, et en particulier des terrains éthiques, politiques, ou celui du féminisme que vous connaissez, qui n'était pas les siens.
Votre philosophie est tout sauf contemplative, Sandra Laugier. Vous nous permettez de réfléchir à ce qui se passe devant nous. Durant la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'événements politiques, ce week-end aussi. Mais la semaine dernière, ce que nous avons retenu, et je pense que c'est très important pour les mois qui viennent, C'est la déclaration du pape François à Lesbos le 5 décembre dernier. Je vous propose de l'écouter.
Et quante condizioni indegne dell'uomo.
Comme ces conditions sont indignes de l'homme. Combien de hotspots où les migrants et les réfugiés vivent dans des conditions à la limite de l'acceptable, sans entrevoir de solution. Pourtant, ce respect de personnes et des droits humains, surtout sur le continent qui les promeut dans le monde, devrait toujours être sauvegardé et la dignité de chacun passer avant tout. Il est triste d'entendre proposer comme solution l'utilisation de fonds communs pour construire des murs, des fils de barbelés. Nous sommes à l'époque des murs et des fils barbelés. Bien sûr, les peurs et les insécurités, les difficultés, les dangers sont compréhensibles. La fatigue et la frustration se font sentir exacerbées par les crises économiques et pandémiques, mais ce n'est pas en élevant des barrières que l'on résout les problèmes et que l'on améliore la vie en commun. Au contraire, c'est en unissant nos forces pour prendre soin des autres selon les possibilités réelles de chacun et dans le respect de la loi, en mettant toujours en avant la valeur irrépressible de la vie de tout homme, de toute femme et de toute personne.
Nous venons d'entendre la déclaration du pape François à l'île de Lesbos, c'était le 5 décembre dernier. Je crois que c'est une déclaration très importante. Pour différentes raisons, et notamment des raisons politiques et philosophiques, étroitement imbriquées, Sandra Logier.
C'est vrai, c'est une déclaration très importante, très, très émouvante. Enfin, qui aurait cru, il y a 10 ans, on m'aurait dit que j'aurais été émue comme ça par la déclaration d'un pape, j'aurais étonné, mais de fait, pape François, là, a dit quelque chose d'extrêmement important, puisque nous met face, malgré tout, hein, nous tous, à des responsabilités que nous avons et à une forme quand même de scandale et d'injustice radicale, alors qu'on s'est petit à petit habitué à ce que les gens meurent en Méditerranée, que les immigrés soient maltraités, ou à Calais, bien sûr. Dans la Manche, ou en général, soit bloqué aux frontières de l'Europe, hein, par certains pays, mais qui font le travail pour les autres qui le veulent, hein, en réalité. Donc, je crois que c'est vraiment important que quelqu'un rappelle à quel point il y a cette sorte d'injustice globale, hein, puisque en France, il y a de plus en plus l'idée qui s'impose que c'est complètement normal, qu'il faut protéger les citoyens qui sont déjà là installés contre des nouveaux venus qui effectivement n'auraient pas droit. Et donc ce que rappelle le pape François, c'est à quel point chaque humain a droit à une vie décente et donc pourquoi ces personnes n'aspiraient pas à une vie que nous avons. Et je crois que c'est vraiment très important de rappeler ça et puis de rappeler cette nécessité du souci d'autrui, hein, du soin, de la sécurité d'autrui et le fait que voilà que les vies normalement devraient être toutes égales et que en ce moment on est dans un univers où des vies valent moins que d'autres. On l'a vu pendant le Covid d'ailleurs, d'autres façons. Et je crois que cette inégalité des vies, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de combattre et en tout cas de réaliser, de se rendre compte à quel point on vit dans un univers où effectivement certaines vies ne comptent pas. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été au cœur de mes réflexions sur l'éthique du care ou d'autres thèmes. Et il me semble que là, il l'a dit de façon extrêmement, extrêmement saisissante.
Alors, cette inégalité des vies, c'est proprement un thème philosophique. Se sont emparées d'ailleurs certaines philosophes féministes comme vous, notamment Judith Butler dans son dernier ouvrage. Je vous propose de l'écouter. Elle va parler des vies invivables et de ce qu'il faudrait faire. Je ne sais pas si on peut encore faire quelque chose, mais en tout cas, c'est très important que les philosophes, et je remarque quand même que ce sont des philosophes féministes qui s'intéressent plus à cette histoire d'inégalité de la vie en ce moment, je vous propose d'écouter la voix de Judith Butler. C'était le 20 mai dernier.
Pour moi, il n'y a pas de contradiction dans le fait de dire qu'il y a des personnes vivantes qui vivent la vie comme quelque chose de précisément invivable. On pourrait, si vous voulez, faire preuve d'optimisme et dire, ben vous voyez, vous vivez, c'est donc que c'est vivable cette vie. Mais ça, à mon avis, c'est une erreur de poser ce constat-là, parce que les gens vivent avec l'invivable, parfois parce qu'il y a quelqu'un qui dépend d'eux ou parce qu'il n'y a pas d'issue. Mais on aurait tort, je crois, de dire « bon, ça n'est pas si grave » ou « il n'y a rien qui ne puisse être amendé ou réparé ». Et c'est quelque chose qui me préoccupe, le fait qu'actuellement, il y a beaucoup de populations qui sont soumises précisément à la violence ou qui sont malades avec la pandémie de la Covid. C'est des gens qui vivent pour ces raisons-là une vie invivable. Et ce sont des gens qui essaient d'attirer l'attention sur cet invivable de leur vie. Si vous voulez, les centres de rétention où on garde les personnes, c'est invivable, même si les gens semblent vivre. Tout ceci pour dire qu'il ne faut pas que l'on s'habitue à cette idée qu'il y a plein de vies qui ne sont pas vivables. Il faut continuer à être scandalisé par ça, par le fait qu'il y a toutes ces vies qui sont invivables. Nous devons continuer d'être sensibles, de réagir intellectuellement, politiquement, émotionnellement à cette espèce de démarche systématique qui fait que certaines populations sont soumises à des conditions de vie proprement invivables. Et c'est là, dans ces conditions-là, qu'on peut peut-être faire un effort politique pour précisément éviter ces camps de détention, faire en sorte que enfin les conditions de vie soient acceptables. En Inde d'ailleurs, ce sont vraiment là des conditions socio-économiques qui font une vie invivable et elles peuvent être changées.
Alors, ces propos de Judith Butler datent de mai dernier. Nous sommes en décembre 2021. La situation n'a fait que s'aggraver. Depuis, ce sont des problèmes éthiques, politiques, qui définissent la vie autrement. Sandra Laugier, et vous, c'est une de vos passions de compréhension. Qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui? Et est-ce une singularité de nos temps contemporains que cette banalisation de l'inégalité entre les vies?
Alors, je crois que Judith Butler le dit très bien, et je crois que c'est cette idée de vie invivable, mais aussi dans le cadre de ce qu'elle a démontré depuis longtemps, mais aussi les philosophes moraux, de l'éthique du care, l'idée qu'il y a une vulnérabilité humaine partagée, et que cette vulnérabilité, c'est ça qui caractérise l'humain aujourd'hui plus que d'autres caractéristiques qu'on a souvent assignées à l'humain, voilà, comme la rationalité ou d'autres ou la liberté. L'autre élément qu'elle souligne, c'est que une fois qu'on a compris cela de la vulnérabilité, de fait, il faut se rendre compte que cette vulnérabilité, elle est générale, mais elle n'est pas du tout égale, elle n'est pas du tout partagé de la même façon. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres, et il y a des personnes en effet qui ont des vies, comme elle dit, invivables ou insoutenables, donc qui sont invivables parce que elles ne sont pas considérées, elles ne comptent pas. Donc le concept de ce qui compte, pour moi, il est central aussi en philosophie morale, alors qu'il n'est pas tellement parmi les grands concepts aussi acceptés. Et donc, le fait que ces vies soient inégales, il faut à la fois se rendre compte que c'est absolument absolument scandaleux, hein, que évidemment toute vie est égale à une autre, et je crois qu'on a complètement oublié cela. Et donc, il faut aussi avoir cette capacité, d'indignation ou de révolte contre le fait que les vies soient inégales. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose dont on se rend compte de façon vraiment très très globale en ce moment. On l'a vu avec la Covid, dans la mesure où des personnes ont été considérées comme une sorte de chair à canon devant aller au front, pour reprendre ces métaphores militaires qui n'ont plus guère de sens, mais bon, en tout cas, des personnes ont été sacrifiées et partout, dans tous les pays, et notamment les personnes issues de l'immigration ou des personnes non blanches aux États-Unis, qui ont eu des taux de mortalité bien plus importants que les autres. Il y a bien sûr donc ces migrants dont on considère en effet que les vies on l'a vu récemment, même si je pense que le dernier naufrage à la mer du Nord a vraiment frappé les esprits, mais c'est vrai qu'on considère que c'est des vies qui comptent moins. Et ce qui a frappé les esprits, c'est qu'on a commencé à finalement parler de ces personnes, raconter leur parcours, donc les singulariser. Mais donc, pourquoi est-ce qu'il faut connaître le parcours d'une personne pour considérer que sa vie vaut quelque chose? C'est une autre question. Mais de fait, il y a vraiment cette inégalité dans la valeur accordée aux vies. C'est ce que signifiait aussi le slogan « Black Lives Matter » depuis longtemps. Qui signifiait vraiment ça, qui signifiait que il fallait faire compter ces vies-là. Et je crois que la plupart des revendications aujourd'hui qui m'intéressent, que ce soit celles du côté des femmes, du côté aussi des minorités, et bien sûr du côté des migrants et d'autres des personnes aussi dans le monde entier qui vivent dans des conditions invivables, comme dit Butler. Je crois que la défense de tous ces droits, au moins la prise de conscience d'une forme d'injustice radicale, c'est vraiment cela qui est à la base de beaucoup de mouvements aujourd'hui extrêmement vivants, mais c'est aussi à la base d'une sorte de réaction contre ces mouvements que je constate depuis un moment, et qui me paraît vraiment tout à fait tout aussi inacceptable que cette situation-là.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Sandra Laugier, Beethoven, sonate pour piano numéro 13 en mi bémol majeur opus 27, interprété par Yves Nat. Pourquoi Yves Nat ?
Oui, Yves Nat est un interprète qu'on n'entend pas très souvent aujourd'hui, mais je voulais vraiment qu'on l'entende. Vous allez voir, c'est magnifique, parce que aussi il a joué un rôle dans mon histoire, puisque mon père et ma mère se sont rencontrés parce que ils étaient tous les deux élèves de Yves Nat, et ma mère est venue en France pour étudier avec Yves Nat, qui, lorsqu'elle est arrivée en France, venait de mourir, et elle a à cette occasion rencontré mon père. Donc c'est vrai que on pense toujours à tout ce qu'on doit à diverses personnes quand on fait un livre comme celui-là, mais c'est vrai qu'on doit tout simplement la vie à ses parents, en plus d'autres choses, et les circonstances de leur rencontre, c'est quelque chose qui reste très présent pour moi.
Thank you. Ça fait très longtemps que je pense que la catégorie de citoyenneté est une catégorie fondamentale, non seulement de la philosophie politique, ce qui va de soi, mais aussi, disons, de la morale politique et dont nous avons besoin. Bon, je suis pas le seul à avoir fait cette découverte. L'égale liberté à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure est une des dimensions ou une des côtes de cette recherche. Ça provenait de l'idée que la plupart des idéologies politiques dominantes aujourd'hui, que ce soit le libéralisme d'un côté ou le socialisme ou le collectivisme de l'autre, veulent opposer entre elles les deux valeurs clés de nos fondatrices, de nos démocraties, que sont la liberté et l'égalité, ou en tout cas les hiérarchiser. Alors vous voyez bien, chacun le fait de son côté. Bon. Et moi, je pense que ce que l'histoire a démontré, l'histoire du XXe siècle en particulier, c'est justement qu'on ne peut, non pas qu'il est facile de les combiner, de les conjoindre. Bon. Au contraire, c'est peut-être l'impossible d'une certaine façon, comme dirait Derrida ou d'autres. Mais c'est une exigence incontournable parce que l'expérience a été faite dans la pratique de ce que l'isolement ou le privilège de la valeur de liberté, en particulier de liberté individuelle et surtout de liberté économique, au détriment de l'égalité, produit l'autodestruction de la liberté, et de ce que l'égalitarisme de type socialiste qui remet à plus tard ou même qui considère comme insignifiante la question de la liberté produit lui aussi son autodestruction. Donc ça, c'était un peu, je dis pas ma révélation, mais en tout cas l'idée dont je suis reparti dans les années 80, à la fin des années 80 et au début des années 90. Et du coup, je me suis retrouvé dans un voisinage qui a été très intéressant pour moi et très fécond, qui ne veut pas dire un accord à 100%, avec des gens dont avant, j'étais ou je croyais être très éloigné. Claude Lefort, Hannah Arendt et d'autres.
Nous venons d'entendre la voix de Étienne Balibard, qui parlait de sa conception de la démocratie. Sandra Laugier, c'est aussi un de vos professeurs, c'est quelqu'un avec qui vous continuez de converser, et c'est quelqu'un avec qui vous avez des accords profonds sur ce que ça veut dire la démocratie. Vous aviez publié en 2014 un livre qui s'intitulait tout simplement « Le principe démocratie » avec Albert Augien, enquête sur les nouvelles formes du politique. Et vous y cartographiez à l'époque les métamorphoses de cette démocratie, la nécessité de repenser les principes démocratiques. Et vous disiez à un moment que, je vous cite Sandra Laugier, « dans un régime démocratique, la procédure électorale se présente comme la dimension la plus emblématique du travail politique, au sens où le vote est tenu pour synthétiser, dans une expression simple, un état de la dynamique du politique. Mais l'élection n'est pas la seule arène sur laquelle ce travail s'y accomplit. » Alors aujourd'hui, nous sommes déjà en pré-présidentiel. Le week-end a été très chargé sur le plan des déclarations politiques, des nouvelles candidatures, de l'expression de ces nouvelles candidatures. J'ajoute, parce que c'est très important de le préciser, que vous êtes une militante de la démocratie et que vous êtes, en tant que philosophe engagé, je crois, désireuse de nous faire comprendre comment asseoir les principes démocratiques. Pensez-vous que cette démocratie soit fragilisée?
Alors, d'abord, quel plaisir c'était d'entendre la voix d'Étienne Balibar. Là aussi, c'est une voix vraiment tellement reconnaissable. Et voilà, j'étais à ses côtés récemment et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, justement, quand je l'ai bien connu, et on s'est plutôt comme collègue que comme professeur, en réalité, dans les années 80 et 90, a vraiment transmis, lui aussi, hein, mais avec à sa manière aussi, avec toute sa formation, toute son œuvre antérieure, il a vraiment transmis toute cette pensée qui se développait aux États-Unis, et il a été extrêmement, extrêmement important aussi. Aussi pour cela, et justement pour penser cette question de la démocratie, qui est en effet la question qui a surgi partir de la fin du siècle dernier, hein, le thème de la démocratie est devenu central. Il n'était pas tellement avant. Et donc, Albert Ogin et moi avons en effet essayé d'accompagner, hein, parce que c'est vraiment aussi un travail de description et d'écoute, hein, ce qu'on a fait. Donc, ces transformations de la démocratie et de thème de la démocratie, puisque on pense souvent que la démocratie, c'est un ensemble d'institutions. Alors, justement, voilà, le vote, on est en plein là-dedans, comme vous le rappeliez, les élections, le pouvoir présidentiel, l'Assemblée, les différents... Voilà, et ça, c'est vraiment un sens de la démocratie structurelle, mais ce qu'on appelle donc le principe démocratie, c'est tout autre chose. Donc, Albert Ogin et moi, c'est vraiment ce désir de démocratie qui s'exprimait quand on a fait ce livre aussi dans tous les différents printemps, qu'ils soient voilà, en Afrique du Nord ou dans le reste du monde, cette idée que la démocratie, c'est vraiment la capacité pour chacun de décider ce qui est bon, ben pour elle ou lui, mais pour les autres, et donc c'est quelque chose qui est très différent, en fait, de la démocratie institutionnelle, même si, bien sûr, il y a des allers-retours entre les deux et qu'on va essayer, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, hein, de s'engager politiquement dans une élection pour les personnes qui vont défendre le plus cette capacité démocratique des citoyens. Et ce qui m'a vraiment intéressé dans cette réflexion sur la démocratie, c'est d'abord de partir des mouvements, et en particulier des mouvements de désobéissance civile, qui, à l'époque, quand j'avais fait ce premier livre sur la désobéissance, c'était plutôt considéré comme des choses assez fantaisistes et à la limite peu démocratique, hein, puisqu'on essaye quand même de désobéir à la loi commune. Mon idée était que, attention, une action de désobéissance civile est vraiment quelque chose qui œuvre pour la démocratie. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on essaye d'étendre les libertés des personnes. Et donc, le principe démocratie, c'est vraiment l'idée que la démocratie, ce qui va définir la démocratie, c'est un certain fonctionnement démocratique où les gens vont être à égalité. Donc, il y a un lien, évidemment, entre démocratie et liberté, c'est bien connu, mais aussi cette question de l'égalité des voix et donc les mouvements d'occupation, hein, qui sont vraiment développés beaucoup, hein, dans les dernières décennies, c'est quelque chose qui est une sorte de mise en œuvre directe, hein, d'une volonté démocratique. Et donc voilà cette conception de la démocratie. Alors évidemment, ça conduit à des engagements. D'abord, je me suis toujours beaucoup intéressée à la politique, hein. Je me rappelle vraiment vraiment assez jeune, quoi, d'avoir été complètement choquée par ce qui s'était passé au Chili en 73. Enfin, j'ai vraiment été très 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 intéressée toujours par la politique, mais sans jamais vraiment m'engager très 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 très, très directement, sauf en fait oui, c'est vrai, en 2017, où je me suis engagée dans la campagne de Benoît Hamon. C'est quelque chose que je regrette absolument pas, malgré le score, qui était pas très brillant. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un très bon souvenir pour moi, parce que, voilà, j'y avais un candidat qui correspondait vraiment à ses aspirations démocratiques pour moi, avec voilà, cet espoir-là, cette volonté de donner plus de place d'abord, effectivement, à l'expression des jeunes et de tous les citoyens. Et puis aussi, de mettre en avant ces thématiques qui me sont chères, qui sont celles du soin, du care, de l'attention aux autres, du service public. Et je pense que au fil des années, depuis, on s'est aperçu à quel point ces valeurs qui étaient défendues à ce moment-là sont centrales. Hein,
Mais aujourd'hui, elles ne sont pas tellement centrales dans les propositions des différents candidats.
Alors,
on a perdu beaucoup de terrain. Vous parlez de 2017, on a l'impression, ouais, que c'était il y a très 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 longtemps. Alors, dans votre nouvel ouvrage, Sandra Loger, il y a des clés de compréhension aussi de ce que nous vivons en ce moment même. Vous dites que peut-être la démocratie n'est pas assez démocratique. J'emploie votre propre terme, démocratiser la démocratie. Comment faire en sorte que notre démocratie ne soit pas seulement représentative, puisque là nous allons vers le vote d'un futur président de la République, mais comment faire en sorte qu'il y ait plus de participation constante, sereine et ordinaire, pour reprendre un concept philosophique que vous portez haut et fort, de la démocratie. Est-ce que la pratique démocratique ne serait-elle pas trop exceptionnelle, finalement ?
Je crois que si nous avons écrit ce livre, Le principe démocratie, et un autre ensuite qui s'appelait Antidémocratie, c'est avec l'idée que effectivement tout le monde parle de démocratie, mais en réalité personne, y compris nous, hein, n'est finalement aussi démocrate donc qu'il ou elle croit, hein, puisque de fait on a souvent tendance, par exemple et avec raison, hein, à se méfier de ses concitoyens, à se dire qu'ils vont pas prendre les bonnes décisions, qu'ils sont pas capables, etc. Et on l'a beaucoup vu pendant le Covid, hein, pendant la pandémie. Je sais jamais s'il faut dire Covid au féminin, parce que ça nous dit la pandémie. Et donc, où il y avait quand même un discours gouvernemental ayant tendance à prendre les citoyens comme là un peu incapables de réellement décider, et de laisser les décisions donc à des comités d'experts, hein, qui effectivement ont vraiment des compétences, mais qui semblaient souligner une sorte d'incapacité des citoyens à décider, alors que en réalité beaucoup de ces comités ont finalement été un peu erratiques et que beaucoup de citoyens au contraire étaient très bien organisés, très responsables. Donc il y a vraiment une sorte de tendance quand même peu démocratique chez la plupart des personnes qui sont des élites, qui sont au pouvoir, et même si ils vont parler de démocratie. Et donc la question est de savoir comment en effet combattre cela, d'autant plus qu'on a affaire souvent des votes ou des gouvernements dits populistes qui semblent indiquer qu'il ne faut pas faire confiance non plus au peuple. Et c'est vraiment vraiment l'enjeu actuel, hein, de la réflexion politique, c'est-à-dire comment en fait réellement s'appuyer sur ces capacités politiques des citoyens qui sont complètement sous-estimé, et c'est cela que j'ai essayé de travailler ces dernières années avec Albert Augien, parce que effectivement je crois qu'il faut un concept fort de la démocratie pour réellement utiliser toutes les ressources, hein, qu'il y a pour gérer les questions qu'on affronte maintenant. Et je crois qu'il y a vraiment un concept maintenant de la démocratie qui est quand même extrêmement exclusif, en fin de compte, hein, comme si c'était un espèce de club, hein, dans lequel il fallait entrer, et comme si, en effet, beaucoup de personnes qui sont extrêmement, non seulement utiles, mais même cruciales pour le fonctionnement ordinaire de la société, sont en réalité considérées comme peu de choses. On est encore sur ce thème des vies qui ne compte pas, et en tout cas sont pas considérés comme des citoyens devant dire leur mot sur la façon dont les politiques doivent être menées. Et donc, par exemple, toutes les personnes, vous le disiez, hein, très bien, toutes les personnes qui s'occupent des autres, hein, donc les travailleurs, travailleuses du care et toutes les professions qui ont assuré le quotidien de tout le monde pendant la pandémie, sont finalement maintenant vraiment très peu considérés, les personnels des hôpitaux aussi, et donc tout fait comme si, tout se passe comme si l'importance réelle des personnes, leur contribution à la société, était vraiment inversement proportionnelle à ce qu'on leur donne comme reconnaissance, et donc à leur place dans les structures de décision et de pouvoir. Et donc pour moi, c'est vraiment ça, la question de la démocratie, hein, c'est vraiment donc donner aussi le pouvoir aux personnes qui sont réellement nécessaires à notre vie. Et on est dans une société qui vit dans le déni de ce qui rend sa survie possible, y compris comme société morale et politique. Et pour cela, Même les hommes et les femmes politiques ont quand même une responsabilité, puisque les uns et les autres considèrent comme acquis, finalement, tout le soutien de ces personnes, hein, sans forcément leur donner quoi que ce soit. Et c'est pour cela que la question du care, pour moi, hein, donc, des soins, de ces professions qui vraiment assurent le soin d'autrui, eh bien, elle est en réalité politiquement vraiment cruciale. Et donc, c'est vraiment curieux qu'elle soit à l'agenda d'aucun parti politique, y compris ceux dits de gauche. Hein.
Alors, la liberté à tout prix, c'est une question qu'on peut se poser. Je vous propose d'écouter un reportage sur une manifestation anti-vaccin en Europe. C'était le 19 septembre dernier.
Les antivax, il y en a un peu partout en Europe, exemple ici en Serbie, où le gouvernement étudie la possibilité de mettre en place un pass sanitaire. L'idée ne passe pas pour ces manifestants qui rejettent le vaccin. Selon les données de l'université Johns Hopkins, un peu plus de 41% de la population serbe est entièrement vaccinée. Plusieurs régions du sud-est de l'Europe connaissent actuellement une forte poussée d'infection au Covid-19. Jusqu'à 3000 personnes se sont rassemblées samedi, également à Zagreb, la capitale croate, pour protester contre les restrictions, affirmant qu'elles mettent en danger les droits de l'homme et les libertés. Parmi les orateurs figuraient des antivax et des théoriciens du complot, qui ont appelé les gens à se soulever contre les autorités.
Vous êtes chebouillant aujourd'hui, ça fait extrêmement...
En France, 80 000 personnes ont défilé pour le 10e samedi consécutif dans tout le pays. Parmi les manifestants, certains écartés de leur emploi, faute d'avoir obéi à l'obligation vaccinale. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, 3 000 suspensions ont été signifiées à des personnels de santé non vaccinés.
La pandémie reprend... Les personnes qui ont souhaité ne pas se faire vacciner, manifestement, ne vont pas non plus se faire vacciner. L'histoire de la troisième dose est devenue donc une incitation et non pas une obligation en France. Vous, en tant que philosophe moral et spécialiste de l'éthique, Sandra Laugier, est-ce que justement, en régime de démocratie... On joue pas comme ça sur des principes très fragiles.
Oui, c'est une très bonne question. Simplement, je ne suis pas spécialiste de l'éthique, hein, malgré tout. Je crois que pour quelqu'un qui réfléchit à l'éthique ordinaire et aux compétences morales ordinaires, je crois qu'on peut pas parler de spécialité. Bien sûr, hein, je réagis à ce que vous dites, d'autant que très souvent les antivax vont avoir recours à la rhétorique de la révolte, de la désobéissance, et donc tout un vocabulaire qui pourrait paraître aussi séduisant aux personnes qui soutiennent les mobilisations démocratiques. Et je crois que ce qu'il faut vraiment se rappeler, et là c'est là qu'on voit le lien de l'éthique à la politique, en effet, je crois que ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand il y a des actions de désobéissance civile, comme, je sais pas, celle de Martin Luther King au siècle dernier, ou d'autres plus récemment, hein, des femmes pour l'avortement. C'est toujours des actions qui sont pour le bien d'autrui, qui sont pour étendre les libertés d'autres personnes. C'est jamais pour soi-même, en fait, qu'on va désobéir, ou Cédric Herrou qui désobéit pour les migrants. Enfin, donc, chaque fois qu'on parle de révolte, qui aurait justement cette puissance et cette noblesse morale et politique, c'est pas du tout de désobéir à n'importe quelle loi pour soi-même, pour son confort personnel, qui est d'ailleurs pas vraiment non plus le résultat, hein, puisque beaucoup de gens qui ne se vaccinent pas tombent malades, atterrissent dans les hôpitaux et mettent en danger aussi les soignants qui eux-mêmes sont déjà très très éprouvés par les années passées. Et donc de fait, je pense que la limite de la démocratie et des actions de style démocratique, c'est vraiment le rapport que l'on a au bien d'autrui. Et donc, cette finalité du bien commun, et on ne peut pas se justifier d'une action qui est non seulement extrêmement égoïste, mais qui, de surcroît, nuit à autrui. Et de ce point de vue-là, ça ne me dérange pas du tout, pour une fois, de pas soutenir une révolte populaire, d'autant qu'elle est quand même extrêmement restreinte, hein, enfin en France en tout cas. C'est vrai que dans d'autres pays, c'est un peu plus, d'après ce qu'on entendait, c'est un peu plus vaste. Mais de fait, je crois que ça signifie malgré tout que des dispositifs politiques, si importants qu'ils soient, doivent toujours être portés par un souci d'autrui et par donc cette dimension éthique, hein, qui souvent manque d'ailleurs beaucoup au discours politique actuel.
Merci infiniment Sandra Logier. Je rappelle que votre dernier ouvrage s'intitule Éloge de l'ordinaire et que c'est aux éditions du Cerf.
Je savoure mon blues de terrien. Je remets le courage à demain, c'est rien. Incendie volontaire, j'emmènerai rien plus loin. Je lance des adieux salutaires, je laisserai faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire qui fait de moi cette ruine. Je demande un permis de faire mieux, que je me regarde en face, consacré vicieux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, je fais juste un état des lieux. Partout y'a du sang sur les mains. Mais moi je fais comme si c'était rien, c'est bien. On s'est dit volontaire qu'on irait bien plus loin. Je lançais des adieux salutaires, je laissais faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire qui fait de moi cette ruine. Je demande un permis de faire mieux, que je me regarde en face consacré vicieux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, je fais juste un état des lieux.
C'est avec Hervé que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Sandra Logier pour votre éloge de l'ordinaire.
Merci beaucoup.
Il y a aussi Wittgenstein, Politique de l'ordinaire aux éditions Vrin, Concept de l'ordinaire aussi aux éditions de la Sorbonne. Merci à Charles Vestrelin qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Iris Vertanissian, Elodie Royer, et merci à Lilian Allôme, qui est revenue de vacances et qui a signé ce soir cette émission